La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue en ma compagnie à la découverte des femmes artistes créatrices au cours du temps. Comme la dernière fois et les quelques émissions précédentes, nous sommes toujours en Espagne et je vois arriver vers moi quelques écrivaines, poétesses et autres femmes de lettres qui se pressent pour que je vous les présente. Et toutes ces dames sont nées dans le premier quart du XXe siècle. Et la première qui entre en scène se nomme Ernestina de Champoursin, qui elle est née en 1905 au Pays Basque espagnol. Alors qui est Ernestina de Champoursin? Nous allons tout de suite le savoir. Il est dit qu'elle faisait partie de cette génération d'artistes, hommes ou femmes de lettres, novateurs espagnols et dits de la génération 27. Ernestina de Champoursin, Morant de Loredo, était une poétesse espagnole. Elle est née dans une famille apparemment où se côtoie l'aristocratie, la respectabilité des gens bien positionnés, et le père avocat est issu de la noblesse, la mère fille de militaire. Elle arrive à Madrid avec sa famille à l'âge de 10 ans. Elle étudie pour se préparer à l'enseignement, mais doit rester dans le droit fil du chemin indiqué par un père plutôt conservateur, ce qui peut se comprendre, à cheval sur les conventions, qui préfère que sa fille prenne des cours particuliers plutôt que de l'envoyer à l'université, ce qui contrarie quelque peu les volontés de la jeune fille. Mais bon, bon an mal an, elle arrive quand même, avec l'aide de sa mère, à composer. Enfin, quoi qu'il en soit, son éducation est solide, d'un très bon niveau. Elle saura s'exprimer assez vite couramment en français et en anglais, comme en espagnol, et même commencera à composer des poèmes en français. Et de plus, sa culture littéraire est importante car elle est enrichie par les auteurs internationaux, dont les auteurs français, surtout du XIXe siècle, comme Victor Hugo, ou des poètes comme Musset ou Verlaine, par exemple. Bon, également par des classiques espagnols. La littérature religieuse aussi, notamment autour des figures comme celle de Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Et plus tard, ce seront ses contemporains, dont le poète espagnol Juan Ramón Jiménez, qui l'impressionnera particulièrement. Mais elle se liera avec les artistes écrivains de son temps comme Luis Cernuda, Manuel Altolagui, Rafael Alberti, pour ne citer que ceux-là. Alors sa carrière de poète et d'écrivaine se dessine petit à petit. Elle commence à publier de la poésie à partir de 1923, elle a 18 ans, et publie aussi dans diverses revues de l'époque. Bon, elle va elle aussi essayer de se lier aux autres femmes intellectuelles, artistes et plutôt contestataires ou réformistes, car toutes ont à cœur de lutter pour leurs droits en tant que femmes, notamment pour favoriser l'accès à l'éducation et à la culture. Elle adhérera donc au Lyceum Club Feminino, qui était une association de femmes fondée par une écrivaine humaniste espagnole nommée Maria de Maeztu y Whitney, qui était matinée de Britanniques, d'Espagnols et de Cubains, et dont la fratrie s'était orientée aussi vers l'art et la création, comme la peinture et l'écriture. Alors, je ne vous l'ai pas présentée, mais elle était bien plus âgée, puisque née en 1881. C'est quelqu'un qui subit aussi des perturbations dans sa famille. Bon, la mort du père, la précarité, l'obligation de partir, l'installation plus ou moins forcée de sa famille de s'installer enfin à Bilbao, Pays Basque, hein, ville dans laquelle sa mère, Juana Whitney, fondera une école, l'Académie anglo-française, nommée par la suite Académie Maeztu. Alors Maria de Maeztu passera sa licence de maître d'école et après quelques fonctions d'enseignante, complétera ses études, obtiendra une licence en lettres et philosophie et ne cessera d'évoluer jusqu'à diriger, depuis sa création en 1915, la Residencia de Señoritas, la résidence des femmes, à Madrid, qui est le premier centre officiel d'enseignement supérieur pour les femmes en Espagne. et de fil en aiguille, en collaboration avec d'autres femmes combatives pour leur émancipation, l'éducation, la culture, elle créera des lieux de rencontres et d'échanges, comme la fameuse association Le Lycéum Club Féminino, où échouera, si je puis dire, à son tour Ernestina de Champoursin. Alors vous retrouverez parmi toutes ces femmes qui se fédèrent pour faire évoluer les mentalités et la société, les Espagnoles dont je vous ai déjà parlé, mais aussi d'autres qui non seulement sont écrivaines, mais avocates, comme Clara Campoanor Rodriguez, des scientifiques comme l'Espagnole Remena Quiroz ou la Polonaise Marie Curie, bien connue. C'est aussi la poétesse chilienne, diplomate, Gabriela Mistral, dont je vous ai déjà parlé, et même l'italienne Maria Montessori, de la fameuse méthode éducative Montessori, qui a défrayé la chronique, qui la défraye encore, je crois, et d'autres encore que je ne peux citer tant il y en a, et qui vont se croiser, échanger, lutter pour essayer de transformer leur réalité, de conquérir une liberté que la société patriarcale leur refusait sous prétexte bien souvent qu'elles étaient femmes, sans prendre en considération les talents dont elles faisaient preuve, ni les bénéfices qu'elles apportaient dans la société. Car il faut vraiment souligner que ces femmes participaient aussi à l'éducation des classes populaires, souvent défavorisées, qu'elles soutenaient pour les sortir de l'obscurantisme et les faire évoluer. Alors elles militaient pour les femmes, mais aussi pour les hommes et les enfants. C'est dire qu'elles prenaient aussi pour la plupart position contre l'exploitation des plus faibles. Alors à chaque fois que j'aborde à la Voix des Arts un historique englobant la fin du 19e siècle et le début du 20e, je me rends compte, et est-ce que vous vous rendez compte aussi à quel point le vent du changement souffle sur ces époques à tout point de vue? Bon, pour ma part, je trouve que ces époques sont bien intéressantes du point de vue des femmes, et celles-ci m'interpellent, car si vous avez remarqué, à part les variations de personnalité, les talents plus ou moins prononcés des unes et des autres, beaucoup de cursus se ressemblent. Elles rencontrent en tant que femmes les mêmes obstacles, mais font preuve souvent de la même détermination à être et créer qu'à trouver une place qui leur convienne au sein de la société en se battant pour cela. Les énergies de vie sont identiques, si bien que j'en oublie ici dans ce numéro d'émission de parler du destin personnel de Ernestina de Champoursin. Me regarde pas avec ses yeux, Johan. Mais nous allons y revenir tout de suite. Alors, il se trouve que dans cette association, le Lycéum Club Féminino, Ernestina de Champoursin croisera aussi la poétesse dramaturge Concha Méndez, que vous connaissez puisque je vous l'ai présentée, et qui a participé également à la création de cette association. Alors, toutes ces femmes sont considérées comme féministes, dans la mesure où elles défendent leurs droits et leur autonomie de pensée et d'action, l'égalité homme-femme, notamment pour l'accès à l'éducation et la culture. La plupart de ces Espagnoles, vous l'avez compris, suivaient de près la politique de leur pays. Ernestina de Champoursin n'échappait pas à la règle, était républicaine, ce qui fait qu'avec la guerre d'Espagne, elle dut fuir et finit par se réfugier au Mexique avec son mari, un poète comme elle, nommé Juan José Domenchina, avec qui elle vivra jusqu'à sa mort à lui en 1959. Bon, Ernestina aura encore 40 ans à vivre puisqu'elle décédera en 1999. Elle va avec son mari, elle apparaîtra dans une anthologie de poésie espagnole, mais se fera remarquer en solo par la critique, publiera pour elle-même quelques recueils et remportera également quelques prix assez intéressants. Et elle tombera plus ou moins dans l'oubli pendant un certain temps, jusqu'à être de nouveau remise à l'honneur, même qu'un prix de poésie portera son nom. Alors, à part sa poésie, elle publiera un seul roman. Bon, par contre, comme elle était trilingue, elle a traduit des œuvres d'autres écrivains. Bon, je pense que c'était aussi un moyen de gagner sa vie. Alors, que dire de ses poèmes, que je n'ai pas lus à part quelques extraits en espagnol où la mélodie des mots était plutôt harmonieuse, même si je n'ai pas, par manque de vocabulaire, saisi toujours le sens. Bon, il est dit que sa poésie parle d'amour, amour humain, amour spirituel. Certains de ses poèmes sont plutôt nostalgiques, Bon, ce serait dû à l'exil, mais aussi à son retour, lorsqu'elle est assaillie par les souvenirs d'antan. Alors, il faut dire qu'elle vivra, à partir d'une certaine époque, au moment de la maturité, une sorte de crise mystique qui imprégnera aussi sa création, ce qui, en la rapprochant du divin, l'éloignera quelque peu du monde. Bon, voilà ce que je peux dire sur cette poétesse sensible, spirituelle, au sens interpellé par le divin, peut-être plus que par le religieux, mais néanmoins avec un esprit ouvert, tourné vers la nouveauté et le changement. Alors après cette présentation, nous méritons une petite pause musicale. Allons la chercher auprès de femmes compositrices. Alors si vous avez bien remarqué, la plupart des femmes dont je parle, avec la guerre d'Espagne, se réfugient au Mexique. Et ça tombe bien parce que là-bas, j'ai rencontré une compositrice mexicaine nommée Consuelo Velázquez. Alors celle-ci est également née au début du XXe siècle, en 1916 plus exactement. Elle commence très jeune, à l'âge de 6 ans, à étudier la musique et à prendre le piano dans un conservatoire mexicain, l'Académie Serratos à Guadalajara, car elle est tout de suite repérée pour ses grandes dispositions musicales. Elle continuera ensuite ses études à Mexico et obtiendra ses diplômes de pianiste, concertiste et de maître de musique. Et par la suite, elle entamera une carrière de soliste à l'Orchestre symphonique national du Mexique et à la Philharmonique de l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Alors en parallèle, elle composera surtout des musiques populaires. Elle commencera dès la sortie de l'enfance et celle-ci, qui apporteront une certaine reconnaissance, voire célébrité. Alors ce sont plutôt des compositions sentimentales, hein, musique et paroles à la fois pour danse et chansons. Elle a aussi composé des musiques de films, mais dans ce milieu, elle est certainement remarquée, car cette jolie brune a également tourné en tant qu'actrice dans des films argentins, mexicains surtout. Le premier, c'était en 1938, elle avait 22 ans, dans un film argentin de Julio Saraceni intitulé Noches de Carnaval, Nuit de Carnaval. Mais il faut dire que ce n'est pas une carrière de comédienne qui la rendra célèbre, mais une chanson qu'elle aurait composée toute jeune, aussi bien les paroles que la musique. Elle a 19-20 ans, tout au plus, et cette chanson fait un tabac. Alors pour ceux qui ont les oreilles ouvertes, car elle fut diffusée généreusement pendant quelques décennies et à l'international, c'est la fameuse chanson d'amour intitulée « Bésame mucho »,« Embrasse-moi beaucoup », qui laisse deviner une séparation prochaine, propice à ce que les amoureux se laissent porter à de tendres adieux, empreints de mélancolique nostalgie. Alors c'est dès la programmation de cette chanson que Consuelo Velázquez, avec son joli minois, a inspiré l'amour et porté au pinacle. Alors, la chanson est reprise à tour de bras, ou plutôt à tour de voix, par les plus grands, et parmi eux, je citerai les plus connus, le pianiste-chanteur de jazz Nat King Cole, le chanteur de charme de l'époque Tino Rossi, le chanteur d'opéra Placido Domingo, les ténors Luis Mariano Pavarotti, José Carrera, même Roberto Alagna, que je n'ai pas entendu, mais si je l'entends, je pense qu'il me fera craquer. Bon, c'est aussi le crooner Frank Sinatra, la cape verdienne et Cesaria Evora, et même les Beatles, et tant d'autres encore. Bref, c'est une chanson avec véritablement un retentissement international, si bien qu'elle sera traduite dans une vingtaine de langues et chantée à différentes époques, comme je vous l'ai dit. Et cette chanson aurait été inspirée, paraît-il, par une aria du compositeur espagnol Enrique Granados, lui-même inspiré par le peintre Goya, les tableaux intitulés « Goyescas o los maros enamorados »,« Goyesque ou les jeunes amoureux ». Enfin, quoi qu'il en soit, la jeune fille est séduite et laisse vagabonder son imagination, qui est rattrapée par son inspiration, car elle avouera qu'elle n'avait jamais embrassé personne lorsqu'elle a composé sa chanson. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Aussi, place maintenant à Consuelo Velázquez, place à l'amour avec Bésame Mucho dans la version, paraît-il, originale.
Mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Ce tendre intermède, revenons à nos écrivaines plus combatives et créatives que jamais. Aussi, j'annonce également de la génération 27 une autre personnalité qui se fait remarquer. Il s'agit de Carmen Condé-Abellan, qui est contemporaine d'Ernestina de Champoursin, puisque seulement 2 ans les séparent. En effet, elle est née en 1907. Bon, c'est quelqu'un qui portait plusieurs casquettes, hein, car en tant qu'écrivaine, elle était poétesse, essayiste, dramaturge et de surcroît enseignante. Alors, c'est une femme qui semble aussi très active et investie dans diverses activités, que ce soit les études, puisqu'elle étudiera d'abord à l'école normale des enseignants de Murcia dans le sud de l'Espagne, puis à Albacete, et ensuite elle étudiera la philosophie et la littérature à l'université de Valence. Elle commencera aussi à travailler toute jeune, à 16 ans. Alors, est-ce par nécessité économique ? En tout cas, ce sera pour une société de construction navale. Bon, mais je n'ai pas vraiment réussi à savoir ce qu'elle y faisait. Alors, ceci dit, dès l'âge de 17 ans, elle commencera à publier des articles dans la presse locale, puis dans d'autres revues, et à 22 ans, elle aura déjà écrit 4 livres. Or, c'est une femme engagée qui publiera dans des revues anarchistes ou revues féministes, et notamment pour la revue Free Woman, Femme Libre. Elle se mariera à 24 ans avec un poète nommé Antonio Oliver Belmas. Elle créera avec lui l'Université Libre Populaire de Carthagène pour apporter la culture au plus grand nombre, puis un magazine intitulé Presencia. Et en parallèle, elle travaillera en tant qu'enseignante dans une école nationale et sera également inspectrice des études d'un orphelinat. Alors, la guerre civile, évidemment, apporte son lot de perturbations. Le couple ne cesse de bouger d'une ville à l'autre, d'autant plus que son mari Antonio s'est engagé chez les Républicains, jusqu'au moment où ils doivent s'exiler. Alors, tous deux partiront pour la France et la Belgique. Ils reviendront à la fin de la guerre et Carmen Condé-Abellan reviendra s'installer à Madrid, où elle restera jusqu'à la fin de sa vie, pour y mourir à l'âge de 88 ans en 96. Et elle léguera toutes ses œuvres à sa ville natale, Carthagène. Entre-temps, en 1979, elle sera devenue membre titulaire de l'Académie royale espagnole, qui semble l'équivalent de notre Académie française. Apparemment, Carmen Condé-Abellan fut la seconde femme à avoir été acceptée. La première le fut en 1784, ce qui semble assez incroyable à cette époque. Bon, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations. Alors, Carmen Condé-Abellan reçut aussi des prix, et notamment le prix national de poésie en 1967, un prix de journalisme en 1979, le prix national de littérature jeunesse en 1987. Alors, c'est une femme qui est restée toujours très active tout au long de sa vie, en collaborant non seulement à des journaux souvent engagés. Bon, elle était aussi conseillère littéraire de maison d'édition, intervenante à la Radio Nationale, et donc aussi en tant qu'enseignante et écrivaine, puisqu'elle a laissé une production importante. Alors, dans la plupart de ses activités journalistiques, notamment, elle utilisera souvent ses pseudonymes Florentina Delmar ou bien encore Magdalena Noguera. Alors, j'aimerais vous parler de son travail de créatrice, écrivaine, poétesse. Bon, d'après ce que j'ai compris, les thèmes de sa poésie étaient la lumière, le soleil, l'amour, la Méditerranée. Gabriela Mistral, l'écrivaine diplomate chilienne, aurait dit d'elle, et cela je l'ai lu sur un site d'une fondation culturelle dédiée à un poète nommé Miguel Hernandez, avec qui elle aurait eu des échanges. Alors je lis sur la biographie qui est présentée de Carmen Condé Abellan ce que dit Gabriela Mistral, parlant de la poésie des premiers moments, et elle souligne ses deux grandes vertus. Bon, je lis la traduction. D'une part, Carmen est la poète de la métaphore qui découvre les trésors et laisse voler la fantaisie. Et de l'autre, Carmen est aussi une grande communicatrice des sensations de la nuit, du silence, de la peur. Alors, sa poésie va évoluer avec le temps, avec les événements de sa vie. Elle traite d'amour et de mort, etc. Bon, le mieux, évidemment, c'est de chercher à lire ce qu'elle écrit. Hein, mais doit-on se fier aux traductions que, pour ma part, je n'aime pas? Car souvent l'âme se perd, hein, la musicalité des mots est sacrifiée. Bon, pour moi, l'ensemble est souvent décevant, hein, et ne rend peut-être pas justice à son auteur. Bon, c'est mon avis, hein, chacun de voir. Enfin, quoi qu'il en soit, encore une femme de plus, une créatrice doublée d'une femme impliquée pour la défense des droits des femmes, des droits pour tous à s'éduquer et à se cultiver, engagée politiquement contre les injustices du temps et qui a laissé derrière elle des traces conséquentes de son passage sur Terre. Et c'est sur Carmen Condé Abellan que nous allons terminer cette émission. Encore une fois, le temps est très vite passé et je n'ai pas terminé avec les Espagnols. Mais en a-t-on un jour fini avec elle, hein, ça je n'en sais rien, mais qui en est fréquenté certaines, des tourbillons d'énergie pour la plupart, à vous remettre droit dans vos bottes ou vos baskets, ou en vous en faire décoller, hein, au choix. Enfin, quoi qu'il en soit, nous les retrouverons la prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute, en attendant le plaisir de vous retrouver. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.